La cour vient d'entendre l'âpre réquisitoire de l'avocat général qui n'a pu souligner, avec l'ardeur d'un homme qui croit détenir la vérité, que la préméditation du crime commis par Julien de la Verneuille, qui, nous le savons, provient de son aveu même. Certes, les dispositions intellectuelles pour son jeune âge, alors qu'il est fils d'ouvrier, ont été avancées, comme l'enfance difficile de l'accusé, mais pour aussitôt les anéantir avec l'explication de la cause de cet événement dramatique que l'avocat général aurait cerné, il ne s'agirait, dans cette affaire criminelle, que d'amour, de jalousie et de vengeance. Nous retiendrons ici l'amour, nous démontrerons sa force, son pouvoir jusqu'à compromettre un homme qui n'est ni un assassin, ni un révolutionnaire, et encore moins un partisan de Robespierre. Il ne s'agit pas seulement d'une analyse morale, mais bien de l'analyse du cœur humain. Voyez ce qui lui a manqué, l'amour et la reconnaissance. Voyez le désir qui fut le sien, s'élever au-dessus de sa condition sociale. N'a-t-il pas déclaré sa recherche de la grandeur dans les sentiments de ce qui rend doux et sage, contre la brutalité, l'hypocrisie et le mépris? L'intelligence et les facultés de Julien de la Verneuille laissent à penser qu'il aurait bien pu être issu d'une classe sociale bien plus haute que celle où le hasard l'avait jeté. Il fut haï par son père et ses frères, maltraité. La colère s'est alors développée en lui avec la certitude d'être méprisé, conscient de sa pauvreté et de sa bassesse aux yeux du monde, pour le camp ennemi que son intelligence et sa conduite ne pouvaient faire oublier. Cet homme bien jeune a cru en un destin dans la société, a voulu ardemment s'extraire de sa condition et a aimé passionnément, éperdument. Je demande toute votre attention pour les faits que je vais vous exposer et je fais appel à votre jugement éclairé. Ne cédez pas à la tentation d'une condamnation facile et inhumaine. Ce jeune candide, ambitieux et sensible, épris de devoir et enclin à l'admiration des destins grandioses, doit être jugé dignement et sans hâte. Julien de la Verneuille se destinait à une vie d'ecclésiaste. Il reste, encore aujourd'hui, pour bon nombre de personnes, un petit séminariste. Il fut le précepteur des enfants de Monsieur et Madame de Rênal. Une liaison amoureuse avec Madame de Rênal engagea ces deux personnes dans une voie que nous ne pouvons approuver, mais non plus condamner. Tous deux étaient tombés dans les folies de l'amour. Ils pouvaient tout sacrifier. Il n'était pas en leur pouvoir de ne point s'aimer. Voilà la vraie tragédie. Madame de Rênal n'a-t-elle pas fait par ici de son amour sans limite pour cet homme qu'elle a aussi instruit et que sa vie n'avait commencé que le jour où elle l'avait vu? Sans doute que l'amour d'une femme d'un tel rang, l'orgueil de la posséder, eurent transporté un homme de cette classe, si jeune et épris de gloire, vers quelques prétentions indignes et leur poussé à échafauder quelques plans scandaleux, mais aucunement pour nuire. Seulement, l'amour sincère eut raison de son orgueil infantile, de sa naïveté et de son ignorance. N'a-t-il pas voulu mille fois donner sa vie à cette femme qu'il adorait? Prendre pour lui la maladie de Stanislas? N'a-t-il pas voulu sauver cette femme qui se déclarait coupable d'aimer Monsieur de Rênal, leur famille, du déshonneur et de la fange si leur amour éclatait au grand jour? Une terrible lettre anonyme dénonçant l'adultère, motivée par la jalousie et la haine d'une femme de chambre et d'un Valneau, qui en était l'auteur, fut adressée à Monsieur de Rênal. Sa femme déjoua cette lettre par une autre tout aussi calomnieuse, écrite de sa main, pour les sauver tous deux. Après cela, Monsieur de la Verneuille dut quitter Verrières. Mais ne soyons pas dupes d'un autre fait, celui par lequel tout a commencé. Le jeune Julien fut nommé garde d'honneur lors de la venue du roi à Verrières. Ce fut une abomination pour les plus riches, un affront. Quelle inconvenance sans égale de voir ainsi prendre place, non sans une certaine aisance, ce petit ouvrier déguisé en abbé, ce petit insolent né dans la crotte. Lui, Julien, transporté par quelques rêveries et pensées imaginaires, plutôt constant chez cet homme, était le plus heureux des hommes. Un court instant, il s'est senti un héros. L'abjecte jalousie fut à son comble quand il obtint de Monsieur de la Mole une forte somme d'argent, les terres de Languedoc, pour lui, Mathilde de la Mole et leur enfant, et obtint un changement de nom avec le titre de chevalier, et quand il reçut le brevet de lieutenant de hussards. À cette nouvelle, la joie de Monsieur Julien de la Verneuille fut sans borne. C'était l'ambition de toute sa vie. Il n'avait cessé de penser commander comme les grands généraux. Pour autant, la supériorité de cet homme fut que son esprit n'avait pas revêtu le petit uniforme mesquin des salons. Il était à présent porté par la passion qu'il avait pour son fils. Rappelons ici qu'il fit parvenir à M. Chélan, l'ancien curé de Verrières, qu'il avait secouru et auquel il reste attaché, une somme de 500 francs qui devait être distribuée aux malheureux pauvres, comme il le fut lui-même autrefois, sans que, à sa demande, soit fait mention de son nom. Une lettre de Madame de Rênal, imposée par son confesseur et adressée au marquis de La Mole, porta un coup fatal au destin de M. Julien de La Verneuille et précipita sa chute. Elle disait dans cette lettre dénoncer par devoir l'avidité de cet homme qui aurait toujours cherché à se faire un état et devenir quelque chose. Il était écrit qu'il n'avait aucun principe de religion et que toute sa conduite n'était que tromperie et que son seul objet était de parvenir à disposer de la fortune du maître de la maison. Quelle étrange déclaration, faite pour précipiter un homme dans l'ignominie. Monsieur de La Verneuille a cru une trahison de Madame de Rênal. Cette idée inconcevable fut une offense atroce. Nous savons qu'il partit pour Verrières précipitamment. Son acte passionnel n'a pas été fait de sang-froid, bien au contraire. La vue de cette femme à l'église fit trembler son bras. Il ne pouvait accomplir un tel acte. C'est au moment où il ne la reconnaît plus si bien, je vous prie de prendre en considération ce détail, qu'il tire sur elle un premier, puis un deuxième coup de pistolet. Il ne s'enfuit pas, entendez bien. Il est resté immobile. Il ne voyait plus. Quand il revient à lui, il se mit à marcher lentement parmi les fidèles qui s'enfuient en criant. Il se fera arrêter par un gendarme, un autre s'étant emparé de ses bras l'empêchera d'intenter à sa vie. Quel trouble s'est emparé de lui au moment où il lut cette lettre. Au moment des faits, cet homme n'était plus tout à fait lui-même. Son geste s'accomplit sans lui, dans une demi-folie, il tire sur une femme qu'il ne reconnaît plus, qui n'est plus tout à fait Madame de Rênal. La passion peut mener un homme au pire et prendre possession de sa raison. Dans cette affaire, une lettre a suffi pour faire s'effondrer le destin d'un homme et d'un bonheur à venir. Nous sommes face à la complexité de la nature humaine dont les actions restent souvent inexplicables. Cette affaire ne doit pas être une intrigue de plus qui amuserait quelques aristocrates et bourgeois. N'oubliez pas qu'il s'agit du sort d'un homme qui s'est maintes fois interrogé sur son âme et pour lequel la seule honte à ses yeux était de ne pas réussir. Que devons-nous condamner? Qui devons-nous juger? Un homme qui aime, prisonnier de la passion et qui fut adoré par deux femmes, ou l'intolérable ascension sociale d'un homme issu d'un milieu que nous abhorrons par sa misère et qui fut anobli? Une femme noble aime le fils d'un ouvrier illettré. Voilà l'odieux scandale. Ainsi, vous continuerez à défendre un empire assoiffé de pouvoir qui condamnerait ces jeunes gens bien éduqués pour leur audace et qui ont l'étoffe des plus grands hommes. La justice, la vraie, doit contrer l'usage malhonnête d'avantages qui n'appartiennent qu'à quelques hommes d'être bien nés. Julien de La Verneuille n'est pas un monstre. Dans cette affaire, il n'y eut que des blessés. Il ne s'agit ici ni d'un meurtre, ni d'un assassinat. Je demande l'acquittement. Cher jury, je compte sur votre clémence.